Yo, what up, it's FD.
This is Mark the Magnanimous.
Holding it down pour Paul Hip Hop sur choc.ca. Cheer!
Paul Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Pool Hip Hop et les petites pépites s'unissent pour vous présenter l'échappée belle. DJ White Sox et Dream Castle accueillent les artistes Charles Cozy et Fruits pour cette première édition à la maison 2109. Venez vous déhancher sur les charmantes sélections de nos DJ et évadez-vous le temps d'une soirée. On vous donne rendez-vous le vendredi 30 mars dès 22h. Plus d'infos sur la page Facebook de Pool Hip Hop.
La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants. La Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le Printemps des revues. Que vous soyez passionné de cinéma, d'art visuel, de musique, de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans les nouvelles et les poèmes, ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société, vous trouverez parmi les 45 revues de la SEDEP. Du 6 au 25 mars, les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous. Pour plus de détails, rendez-vous sur sedep.qc.ca.
Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez la photo média sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir à l'émission, nous sommes plus nombreux que la dernière fois. On était en effectif réduit de 3 personnes, mais cette fois-ci, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bientôt 7 probablement. Je vais faire un petit tour de table pour vous présenter. Camila Rodriguez, CA à la régie également.
Bonjour.
Étienne Tardy-Paradis.
Bonjour.
Tessie Jean-Paul.
Bonjour.
Myriam Bernet.
Bonjour.
Nous allons peut-être avoir Charles Lemieux plus tard et Marie Chabot-Johnson va nous rejoindre en studio sous peu. Et nous avons également une observatrice ce soir, Selma. Bienvenue. Ce soir, on va parler de sujets très passionnants, très intéressants, qui ont fait parler d'eux cette semaine au niveau de l'actualité. Donc, on va parler, par exemple, de ce mea culpa très intéressant du National Geographic. Myriam va l'analyser plus tard. On va aussi parler des médias, des divers médias qui existent à Montréal, par exemple, des médias culturels. Puis, plus tôt dans l'émission, on va parler du fardeau de l'homme blanc. Donc, en tant qu'homme blanc, je dois faire...
J'ai hâte d'entendre ça!
Je dois faire un petit disclaimer juste pour commencer avant qu'Étienne fasse sa chronique. En tant qu'homme blanc, j'ai un biais positif favorable envers cette chronique déjà. Donc, je m'en excuse. Et puis, voilà, je te cède la parole, Étienne.
Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Les grands tribuns québécois ont parlé. Le jugement est tombé. L'homme blanc hétérosexuel québécois est muselé. Un nouveau fardeau lui est imposé. Sur son dos, on peut lire « victime non reconnue ». Victime du multiculturalisme, de l'antiracisme, de la rectitude politique, du féminisme et de la gauche bien pensante. Il ne peut plus donner son opinion. Tout est à refaire. Le mot québécus blanquillus doit reprendre ce qui lui est dû, le monde. Le Britannique Kipling doit se retourner dans sa tombe. S'il était vivant, il dirait sûrement « Ô blanc, reprends ton lourd fardeau, tes récompenses sont dérisoires. Le blâme de celui qui veut ton cadeau, la haine de ceux-là que tu surveilles. » Sans surprise, l'écrivain raciste, misogyne, pro-colonialiste du 19e siècle serait en diapason avec nos autoproclamés polémistes et journalistes d'opinion d'aujourd'hui. Une opinion ô combien brimée, à un tel point que leur multiples tribunes quotidiennes ne sont plus suffisantes. Pauvres martyrs médiatiques, sur quel sujet pourront-ils cracher leur savoir infini, ces puits de solutions intarissables pour apaiser les maux d'une société en perdition? Imaginez un monde sans ces interventions existentielles. Voici un petit échantillon de cet apport hautement nutritif pour le débat collectif. L'auteur du best-seller québécois La fin de l'homosexualité et le dernier gay, Éric Duhaime, nous gratifiait la semaine dernière de la citation suivante en parlant de l'homme blanc muselé. C'est ou ben t'es avec les victimes ou ben tu fermes ta gueule, mais tu peux pas dire que t'es pour ou que tu es nuancé. Autre grand penseur radiophonique, Jérôme Landry, nous gratifiait du fond de sa pensée sur la dictature des minorités et la polémique entourant les affiches sexistes du Balthazar, le bar. Il n'y a même pas 100 partages sur le poste original. Puis là, à cette heure, on parle les quatre. C'est dans le Journal de Québec, ça a été repris à gauche puis à droite, mais tu sais, ça partait de rien. Pourquoi ils l'ont pas gardé? Sérieux, là, c'est un peu niaiseux de réagir à cette niaiserie. La minorité tapageuse, et voilà. Puis on vit un peu une dictature des minorités depuis un certain temps.
C'est poétique.
C'est poétique et c'est politique. Encore mieux, l'ancien poéticien québécois et philosophe des temps modernes, Bernard Drainville, nous parlait il y a quelques jours d'une espèce de racisme anti-blanc, comme une espèce de racisme à l'envers qui est en train de voir le jour.
Un peu comme Pierre Bruno, qui avait dit que c'était du racisme inversé quand il y a eu la
tentative.
Du terrorisme inversé à la mosquée de Québec.
Absolument, des très grands penseurs. sur cette lancée, le célèbre journaliste d'opinion Richard Martineau nous offrait une réflexion des plus inspirantes. Le racisme à l'envers est aussi niaiseux que le vrai racisme. Le sexisme à l'envers est aussi niaiseux que le vrai sexisme. Là, faudrait seulement les femmes lesbiennes racisées qui auraient le droit de parler. Les hommes blancs devraient fermer leur gueule. Bien d'accord avec cette dernière phrase. Les hommes blancs devraient fermer leur gueule. Si c'est pour proférer des conneries semblables, il faudrait fermer leur radio. Nous devrions arrêter de les financer, fermer leurs journaux, mais surtout, ils devraient fermer leur gueule et écouter un peu plus pour une fois. À quel moment les privilèges obstruent le raisonnement? À quel moment l'oppresseur est soudainement devenu l'oppressé? Est-ce qu'une personne qui écrit dans les journaux, qui possède une émission de radio quotidienne et qui parle à la télévision peut vraiment être une victime muselée par une minorité?
Surtout quand elle fait un salaire dans les 6 chiffres, faut-il le mentionner?
une minorité qui se trouve plus souvent qu'autrement à être issue de la diversité culturelle. La diversité culturelle est devenue une menace pour ces hommes qui n'ont que l'âge de mûrir. Leur privilège serait menacé par l'arrivée d'une diversité florissante et envahissante. Une diversité culturelle largement minoritaire menacerait leur privilège durement acquis. C'est drôle, tout ce que je vois à la télévision, à la radio, au cinéma, c'est une majorité d'hommes blancs québécois qui parlent, qui aboient et qui gaspillent temps et argent. Oups, pardon. Et cela alors qu'il existe une importante diversité culturelle au Québec. Il est facile de se sentir menacé quand nous occupons déjà l'avant-scène sans vouloir le partager. La diversité culturelle est une force motrice du développement. Elle est un atout indispensable pour atténuer la pauvreté et parvenir au développement durable. Elle n'est pas un obstacle pour le Québec, elle est le Québec. Les humains doivent se reconnaître dans l'humanité commune et en même temps reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. La diversité culturelle se manifeste par la reconnaissance des différentes langues, histoires, religions, traditions, modes de vie. Cette manifestation ne peut qu'être bonne pour la société québécoise. Il est venu le moment d'écouter. Je suis un homme blanc hétérosexuel et j'ai déjà trop parlé. Merci.
Merci beaucoup, Étienne. En tout cas, moi, je suis un peu tanné parce que moi qui pense que les Québécois, c'est juste les hommes blancs de plus de 50 ans. Ceux qui ont milité dans les années 70, tu vois-tu?
Okay. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Sam, puis je trouve ça le fun que ça sorte quand même de la bouche d'un homme blanc, tu sais, parce que souvent, c'est drôle parce que en tant que personne noire, femme, c'est drôle de voir à quel point les gens, ils s'inventent une espèce de peur, comme si qu'on était aussi menaçant que ça, tu sais. Puis, tu sais, il me semble que je regarde nos combats, puis que je regarde qu'est-ce qu'on a amené, tu sais, c'est simplement, tu sais, une égalité, tout simplement. Je trouve ça quand même assez intéressant qu'il y ait autant de commentaires qui sortent aussi tu sais, Richard Martineau, j'avais entendu ça comme quoi c'est juste la femme lesbienne racisée qui pouvait parler, tu sais, mais d'où ça sort, ce genre de... Excuse-moi.
J'ai encore interrompu Tessie, là. Je vais arrêter de faire des signes à travers la fenêtre de la régie. Continue.
Oui, c'est ça. Non, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant que t'en parles, toi, en tant que blanc. Puis, oui, fait que c'est ça.
Mais, tu sais, en commençant, qu'on avait lancé la chronique, le thème et tout, j'étais un peu... De quoi je parlais, puis Myriam m'avait lancé l'idée justement d'avoir cette approche-là par rapport à moi-même, par rapport à une sœur que je peux comprendre, tandis qu'à l'inverse, je peux pas comprendre, tu sais, justement de me faire accuser à tort et à travers à chaque jour de menacer des privilèges qui, tu sais, alors que surtout je crois qu'au Québec il y a eu un certain temps une oppression des francophones catholiques par rapport à pas une majorité mais une minorité anglophone protestante à une certaine époque. Ça fait longtemps, c'est plus la réalité d'aujourd'hui, mais ça devrait occuper l'esprit. Il devrait quand même, tu sais, des gens devraient ne pas oublier que ça a été une réalité, et aujourd'hui même ils le refont encore et encore. Alors, on apprend quand, où, comment...
Camilla, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je pense que c'est assez intéressant. Quand j'étais au Chili, l'année passée, j'ai fait une session d'échange. Puis là-bas, il y a beaucoup d'immigrants haïtiens. Puis il y a de plus en plus de racisme, parce qu'il y a de plus en plus d'haïtiens. Puis c'est un pays qui est pas très habitué à l'immigration. Puis, ou du moins, l'immigration des pays limitrophes. Mais des haïtiens, ça fait un clash quand même. Ça fait un changement dans le paysage. Puis les gens vraiment sont racistes. Il y a beaucoup de racisme qui a émergé de ça. Apparemment que les Haïtiens volent les jobs puis les femmes. Fait que
on a entendu ça quelque part.
Tellement rien.
Tout ça pour dire. Puis moi ça me désole dans le sens que ici les Chiliens peuvent être victimes de racisme. L'ont eu difficile en tant que réfugiés politiques pour la plupart. Et donc c'est vraiment triste de voir que notre champ, disons, d'empathie, notre capacité d'empathie s'arrête à notre expérience propre. Puis même là encore, c'est généreux des fois. Parce que on arrive avec des gens qui ont été victimes de... Donc, disons, on a des compatriotes chiliens qui ont été victimes de racisme, puis les gens dans leur pays sont même pas capables de comprendre ça, puis de le voir, puis de dire « Attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? » Du moment que moi, je vais me déplacer, puis je vais aller au nord, ça va être moi qui va être tout à coup racisé. Donc, c'est assez terrible de voir ça. Puis, concernant le point que t'amenais tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça dérange tellement les gens si tout ce qu'on demande, c'est l'égalité? Pour moi, c'est assez évident que si on entend juste le point de vue des hommes à la radio, ou des hommes blancs à la radio, par exemple, je généralise pour simplifier, ben nécessairement, ça demande qu'ils laissent un peu de leur place pour qu'on ait une plus grande représentativité. Et donc, c'est une réaction, c'est un backlash à cette demande de, ben oui, tu sais, pour que ça soit égal, il faut que tu donnes un peu du tien pour que chacun puisse parler à ce qui lui correspondrait, en fait. Donc, nécessairement, c'est une espèce de colère, de crainte, de peur, l'impression que c'est eux qui sont opprimés. Parce que on se retrouve à devoir essayer de rectifier l'ordre des choses, puis essayer de mettre une balance, la juste balance du dialogue. Mais quand toi, t'as une chronique, puis on te dit individuellement, on aimerait mieux entendre quelqu'un d'autre que toi, c'est sûr que ça heurte, c'est sûr que les gens sont comme « Ah, c'est du racisme, c'est ça ». C'est comme avec comment ça s'appelle quand les quotas dans les industries publiques. Moi, on m'a déjà dit nous les Québécois, on a déjà été victimes de racisme parce que il y avait des quotas sans vraiment réfléchir que à ce moment-là toutes les personnes qui bénéficiaient du quota étaient par défaut pas des Québécois. Peu importe leur statut, peu importe leur citoyenneté, s'ils sont nés ici ou pas, si... Bref, donc les autres arrivaient, les autres nécessairement sont pas Québécois, puis allaient chercher des emplois. Alors, c'est vraiment cette difficulté-là de donner ce qui est sien sans comprendre que ça n'a jamais été légitimement à toi.
Oui, Marie.
Vraiment.
Mais parce que finalement, dans qu'est-ce que j'entends, tout ce qui est sous-jacent, c'est la reconnaissance, oui ou non, de l'inégalité à la base. Parce que je pense qu'on revient toujours à l'idée que quand tu ne vis pas la discrimination en tant que telle, tu la vois pas, donc tu comprends pas pourquoi on devrait donner un avantage, entre guillemets, à quelqu'un, vu que tu vois pas comment ça comble un désavantage. Donc finalement, l'éducation est beaucoup plus sous-jacente à la base, parce que tu vois, en fait, tu comprends pas pourquoi on te dirait que tu es privilégié. Parce que j'ai vu ça cette semaine d'ailleurs, que l'idée, en fait, c'est qu'il y a une mécompréhension du concept de privilège parfois, dans l'idée que on pense que privilégié, ça veut dire que ta vie est tout rose, que tu vis pas de difficultés, mais pas nécessairement ça, mais que finalement, quand on parle de privilège, c'est juste l'avantage de pas avoir.
Mais c'est ça, parce qu'on en parlait l'autre jour, Marie, quand on a été voir la pièce de théâtre dont j'ai oublié le nom.
Dis-moi merci. Dis merci,
c'est ça, sur l'immigration. Ouais. Puis dedans, il y a un homme blanc qui dit, on me dit que je suis privilégiée, mais moi j'ai toujours pensé que j'étais au rez-de-chaussée des privilèges, dans le sens que je suis un narcissiste, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis jeune, on m'a souvent pilé dessus. Bref, il sentait lui-même opprimé et pas vraiment bénéficiant d'un système quelconque. Mais en regardant un peu plus en profondeur, il se rend compte que si lui est au rez-de-chaussée des privilèges, il y a des gens qui sont au sous-sol, il y a quelqu'un qui est au sous-sol, il y a quelqu'un qui est à la cave, il y a quelqu'un qui est au 36e sous-sol. Puis cette personne au 36e sous-sol, c'est quand même facile de comprendre que ça va être une femme racisée, lesbienne, handicapée, qui Trans. Cumule, qui gagne la guerre des...
Celle qui menace Richard Martineau.
Gagne la guerre des oppressions.
Là. Oui, on est dans une intersection de plus d'une dizaine de rues, finalement, dans ce cas-ci.
Ça, c'est intéressant. Point que vous soulevez, parce que c'est l'accumulation des privilèges. On s'en rend pas compte, mais le fait de ne pas être handicapé, le fait d'être de ne pas être entre guillemets pauvre là, mais juste d'avoir assez d'argent pour se nourrir puis se vêtir,
fréquenter l'université,
on est déjà privilégié de cette façon-là, privilégié parce qu'on n'est pas de minorité sexuelle ou de ce genre,
privilégié simplement parce qu'on parle assez bien français pour se sentir en confiance, ou aussi, on a assez peu d'accent pour se sentir en confiance de parler à la radio.
Oui, exact. Puis ça m'a fait penser ce que vous disiez, Marie et Camilla, à la situation qu'il y a eu moins au niveau du racisme, mais plutôt au niveau des minorités sexuelles. Cette semaine, il y a eu l'annonce en fait qu'à Service Canada, les fonctionnaires ne devaient plus s'adresser aux gens par monsieur un tel ou madame une telle, mais plutôt de façon en leur disant leur nom, en fait, leur nom complet. Donc ça fait beaucoup parler. L'annonce était peut-être un peu malhabile là, parce que c'est vraiment stupide qu'il n'y ait pas la case autre minimalement au gouvernement. Où il y a des cas, par exemple, dans d'autres provinces, où on a demandé à des parents homosexuels qui est le père et qui est la mère. Donc ça, c'est des aberrations qui peuvent être changées avec un peu de flexibilité. Puis juste la réaction des gens, parce que c'est un problème qui existe, oui, il faut trouver une bonne solution, mais la réaction des gens, vous écouterez l'épisode d'Infoman de cette semaine, mais il y avait des extraits des commentateurs de Québec. Ah, peut-être pas Infoman, peut-être... C'est pas la semaine prochaine, mais l'autre, là, la soirée est encore jeune. Il y avait des extraits de Radio-Québec où ils disaient « C'est ça, maintenant, on va plus pouvoir être des hétéros, on va plus pouvoir être des homosexuels, va tout falloir être des trans ou des ci ou des ça pour qu'on parle de nous autres. » En tout cas, Radio-Québec.
Je trouve ça intéressant comment les réactions qui sont autour de ce... De cette annonce-là, puis non seulement de voir, moi, la chose qui, à chaque fois que je réalise, là, quand on parle justement de termes non genrés et tout ça, c'est que la limitation de la langue française, puis ça, c'est, parce qu'en français, tu peux pas, il y a toujours, c'est il, elle, il y a pas de pronoms qui sont neutres, ça n'existe pas, c'est vraiment difficile d'aller au-delà de ça, fait que là, on est, puis en plus que la langue française est une langue sexiste, là, tu sais, on invente rien, mais c'est de vraiment un peu comme, comment qu'on peut déconstruire justement tout ça, parce que la langue fait partie de notre façon qu'on construit le monde, la façon qu'on voit le monde, la façon qu'on réagit au monde aussi, donc c'est vraiment une espèce de transformation carrément sociale, individuel aussi, de comment qu'on peut revoir le monde. Donc moi, je trouve que c'est un débat à avoir qui est important, puis qui est intéressant aussi.
Oui, les enfants, souvenez-vous que le masculin l'emporte toujours.
Oui, bien
entendu. Plus maintenant.
Non, en fait, en plus, à la base, il y avait avant que la loi de la règle du masculin l'emporte sur le féminin, on parlait de la règle du nombre en plus. Mais pour faire
c'est incroyable, c'est récent dans l'histoire de la langue française qu'elle soit.
Mais on le prend pour acquis. Ouais. Mais justement, pour faire le suivi par rapport à qu'est-ce que Tessie disait, par rapport un peu au thème aujourd'hui, on voit aussi que dans la représentativité des médias, oui, on va beaucoup parler de qui écrit un texte ou de qui parle un texte. Ou qui va être à la télé puis de se voir représenter, mais des fois on n'aborde pas nécessairement l'aspect du contenu quand on parle de la diversité dans les médias. C'est juste l'idée du vocabulaire qui est du vocabulaire utilisé, désolée, la journée a été longue. Quand on parle de la féminisation par rapport à la représentation d'égalité de genre, ben c'est un peu la même chose qu'on peut faire un lien quand on parle à l'égalité dans une perspective de représentativité ethnoculturelle. Pas dire qu'il y a des langages différents, mais juste dire que la symbolique de certains termes par rapport à une sensibilité qu'on peut avoir, ça peut avoir, finalement, du point de vue qu'on vient écrire, ça peut finalement avoir un impact au niveau de l'égalité générale qu'on peut avoir. Je sais pas si c'est clair. C'est un peu plus flou.
Oui, c'est ça. Puis c'est pour toutes les minorités, pour les autochtones aussi, là, pour pouvoir... pour qu'on parle des problématiques autochtones dans les médias. C'est de moins en moins vrai, heureusement, mais il fallait qu'ils fassent partie des 4D, là, je les oublie, mais il y a drunk...
Drug,
mais il y a Pierre-Carl Péladeau, je pense. Ben, moi, je connais les 4 S, là.
Les 4 S, ouais. Ah, sexe, sport.
Et dollar. C'est le signe du dollar.
C'est ça. Ben, je les retrouverai, les 4 D, là. Les 4 D, ça s'applique aux autochtones.
Ah oui.
Mais okay. C'est ça. Donc, on fait une petite pause. Une petite pause musicale. Qu'en pensez-vous?
Ben oui,
allons-y.
On va écouter une chanson. J'ai encore choisi de façon totalement arbitraire, là, parce que je trouvais le nom de l'artiste assez comique. Ça s'appelle Roger. R-O-W-J-A-Y, mais c'est comme Roger en même temps. Fait que je sais pas, en tout cas. On écoute Ballon Bleu sur son EP.
Mais Roger,
bon.
À ma mort, j'aimerais être enterré dans un cercueil Versailles. Cet aspect pour me transporter afin de devenir monoré. J'aime Roger. Différents pays, différentes cultures. Mais on s'impose, t'es une dictature. T'inquiète, on perdure. J'suis avec mon frère, Platinum, dans le Saint-Denis. Bien entouré, wesh, je me sens béni. Élégant comme quartier ballon bleu. J'ai le bracelet en crocodile sur ma quartier ballon bleu. Les gens parlent sur nous mais t'inquiète, on s'en fout, fuck les rageux. On est dans la cour des grands, on ne joue pas au même jeu. Tu sais que les choses elles se font, on ne manque jamais de fond. On m'a souvent dit j'étais con, maintenant regarde qui est con. Tu sais que les choses elles se font, on ne manque jamais de fond. On m'a souvent dit j'étais con, maintenant regarde qui est con. J'suis un bon.
Donc, c'était la moitié de la chanson Ballon Bleu de Roger. Petit problème technique, mais on vous garantit que la première moitié est aussi bonne que la deuxième.
moi, je garantis pas ça, en tout cas.
Pas ça?
On ne s'engage pas sans le savoir.
Bon, d'accord. On va pas faire de raccourcis. Donc, toujours à la faute aux médias, sur choc.ca, on va aller vers Myriam Bernet. Myriam, cette semaine, on parle des diversités dans les médias. Puis à ce propos, on parlait tout à l'heure du National Geographic, qui a fait une sortie un peu inattendue. Pourquoi maintenant? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur cette histoire?
Alors, en effet, la semaine dernière, Suzanne Goldberg, rédactrice en chef du National Geographic, a reconnu dans un article intitulé « Pendant des décennies, notre couverture était raciste », un titre assez clair, que le magazine a longtemps ignoré les Américains et Américaines non blanches, et plus encore qu'il a perpétué des stéréotypes racistes. Alors, le National Geographic, qu'est-ce que c'est? Pour les néophytes, il s'agit d'un magazine mensuel états-unien publié par la National Geographic Society, dont le premier numéro est sorti en 1888. Il s'agit d'un magazine qui traite aussi bien de photographie que de géographie, d'histoire que de science, et qui est notamment connu et reconnu pour la qualité de ses reportages photos. C'est un magazine qui a beaucoup de succès. Il existe en 33 éditions étrangères et atteint mensuellement plus de 40 millions de lecteurs et de lectrices. Donc, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, la rédactrice en chef a affirmé dans son édito, et je cite, « Une partie de ce que vous trouvez dans nos archives vous laisserait sans voix ». Il s'agit donc d'une sortie très inattendue qui accompagne le dernier numéro du National Geographic sur la race.
Alors, pour les personnes qui nous écoutent, je vous prie de ne pas vous choquer de l'utilisation du mot « race », très utilisé en anglais, mais plus controversé en français. Par « race » ici, j'entends bien sûr la construction sociale, et c'est d'ailleurs une notion que beaucoup de personnes racisées utilisent dans les luttes antiracistes, car c'est une catégorisation créée dans un but de domination et qui ne doit donc pas être invisibilisée. Je souhaite également préciser que, avec cette chronique, je ne souhaite en rien dénigrer l'entièreté du travail de ce magazine, dont je suis moi-même une lectrice depuis de nombreuses années, et même que je suis pas mal leur photographe de façon très assidue sur les réseaux sociaux. Mais je ne vous apprends rien en vous disant qu'apprécier quelque chose ne signifie pas qu'il ne faut pas se poser de questions et qu'il ne faut pas ne pas déconstruire les dynamiques qui la composent. Ces précisions faites, laissez-moi vous introduire un peu à l'histoire du National Geographic pour essayer de comprendre pourquoi, en 2018, la rédactrice en chef du magazine fait un mea culpa sur le passé raciste du magazine. Tout commence donc en 1888 avec la National Geographic Society, qui est un club composé d'académiciens et de riches entrepreneurs qui aiment voyager. Alors, première observation assez facile, ça commence avec une élite masculine qui est, je suppose, sans trop me tromper je pense, blanche, au vu de l'année dont il est question, une année pendant laquelle les lois de ségrégation raciale de Jim Crow étaient en vigueur aux États-Unis. Donc, il s'agit de 33 hommes qui se rassemblent dans le but de créer une société pour accroître et diffuser les connaissances géographiques. Et dans cette entreprise, les membres de la riche famille aristocrate Grosvenor, notamment, vont avoir une place très importante. Ce sont donc Alexandre Graham Bell, un scientifique, et Gilbert Hovey Grosvenor, alors éditeur du magazine, et membre de la famille que je viens de citer, qui vont bâtir la réputation du magazine. Bref, bien que l'histoire de la création du National Geographic date du 19e siècle, sa base et les personnes qui l'ont composée tout au long de l'histoire peuvent expliquer certaines dimensions de racisme relevées par la rédactrice en chef actuelle. Et si ça vous intéresse, vous pouvez parcourir toute l'histoire du National Geo sur leur site avec votre propre lunette d'analyse, parce que voilà, on a juste une heure d'émission, je peux pas tout vous raconter ici. Pour en revenir aux propos de la rédactrice en chef, elle a affirmé aussi, et avec beaucoup de raison, que même si partager les histoires épouvantables du passé du magazine fait mal, il faut bien examiner sa propre histoire avant de tourner le regard vers les autres. Alors, comme le dit si bien l'adage, mieux vaut tard que jamais, mais moi j'aimerais lancer la question autour de la table, est-ce qu'un mea culpa est suffisant ? Surtout que l'on peut s'interroger sur cette longue attente. Il fallait donc un numéro spécial sur les races pour s'excuser d'avoir été longtemps raciste. Donc, pour le numéro d'avril, Suzanne Goldberg, la rédactrice en chef, a demandé à un professeur agrégé de l'Université de Virginie d'analyser les rapports de publication depuis 1888. Celui-ci conclut que jusque dans les années 1970, le National Geographic ignorait presque toutes les personnes racisées qui vivaient aux États-Unis, en les reconnaissant rarement au-delà d'un statut de subordonné, comme celui de domestique ou encore d'ouvrier. Plus encore, la publication représentait les autochtones et les aborigènes comme des exotiques, de joyeux chasseurs et de bons sauvages. Pour vous donner un exemple précis, les aborigènes d'Australie sont dépeints en 1916 comme, je cite, « des sauvages qui se classent au plus bas niveau d'intelligence de tous les êtres humains ». Et ils sont souvent représentés nus sur les photos. Pour vous donner un autre exemple, il y a aussi un reportage sur l'Afrique du Sud, réalisé cette fois-ci en 1962, soit en plein apartheid, mais dans lequel aucune parole n'est donnée aux Sud-Africains noirs, qui sont d'ailleurs toujours représentés comme des clichés exotiques. On vous publiera l'article sur Facebook, vous allez trouver beaucoup plus d'exemples de ce genre. Alors voilà, c'est bien beau de s'excuser, disons que c'est un premier pas non négligeable, mais j'aimerais que nous allions plus loin dans la réflexion ensemble et dans l'analyse. Est-ce que ces excuses se reflètent au niveau de la machine ? Je veux dire, qui travaille au National Geo et plus encore, qui prend les décisions ? Pour cela, rien de mieux que de jeter un petit coup d'œil rapide au conseil d'administration, par exemple, qui est composé ici de 19 personnes, toujours issus d'une haute élite de millionnaires, scientifiques et j'en passe. Alors je vais vous laisser là-dessus. J'ai fait la vérification avec les 19 personnes et voici les résultats. Femmes racisées, 0. Hommes racisés, 1. Femmes blanches, 6. Hommes blancs, 12. Merci.
Merci Myriam.
Merci Myriam.
Tu nous laisses un peu sans voix.
Mais en fait, c'est toujours intéressant. Là, c'est comme l'histoire qui est sortie. Moi, ça m'a rappelé quand je faisais ma chronique, l'histoire avec H&M, là, le petit garçon noir avec le petit pull de singes là, voilà, très essentialiste et néocolonialiste. Moi, en fait, j'interroge toujours la sphère de pouvoir. Qui c'est qui contrôle? Qui c'est qui laisse passer ses décisions? Qui c'est qui injecte l'argent? Qui est derrière la machine? Et c'est toujours fascinant de constater que la plupart du temps, en fait, tout le temps, à tous les niveaux, que ce soit les gouvernements, les médias, la mode, tout, c'est contrôlé pas mal par des hommes blancs. Et donc voilà, je pense que des excuses, pour ma part, ne sont pas suffisantes et qu'il faut laisser la diversité existante aux États-Unis se refléter dans davantage que des excuses dans un édito d'un numéro sur la race.
Je trouve ça vraiment intéressant que tu dises, FX. Moi, je pense que c'est vraiment un bon pas vers l'avant parce que c'est rare que tu vois ce genre de,
ah oui, c'est
de
sûr.
Truc-là, surtout d'un aussi gros, comment je pourrais dire, magazine un peu, tu sais, qui fait ça. Puis tout le monde, c'est connu à travers vers le monde, tu sais. Après, moi, la question que je me pose tout le temps, c'est à savoir, bon, aujourd'hui, on est dans une ère de responsabilité sociale, hein, d'entreprise. Tout le monde essaie de toujours être toujours transparent, de toujours donner de l'argent. Tu sais, il y a toujours, dans tous les magasins, tu vas voir, nous, on nous aidons les femmes à être plus autonomes, tu sais. Fait que
nous, on recycle, alors que la plupart du temps, c'est pas vrai.
Non, c'est ça. Puis des fois, tu te dis, est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a vrai, parce qu'on s'entend que ça, oui, c'est vraiment bien, mais c'est un processus qui est beaucoup plus lourd que simplement le dire, parce que c'est totalement de rentrer dans un processus de décolonisation qui demande en soi vraiment que c'est un peu violent comme image, mais qu'on se coupe les veines et qu'on voit justement un peu c'est quoi, où sont les blessures et tout ça. Donc oui, c'est un bon pas, mais c'est clairement pas assez, parce que il en faut plus, tu sais, pour être vraiment capable de déconstruire les préjugés et tout ça.
Et Marie?
Mais justement, qu'est-ce que tu me fais penser, c'est où est finalement l'instrumentalisation un peu de cette idée-là de diversité pour se donner un rôle d'engagement social, ou même encore, c'est comme une nouvelle choc quand même. Là. Je suis sûre que les ventes vont augmenter par rapport à ça.
Exact. Ah, probablement. Je suis persuadée. Ben oui.
C'est clairement une tactique de relations publiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que les relations publiques publicise ou communique des actions réelles, des changements concrets, des prises de conscience réelles au sein de l'organisation, ou alors c'est seulement des relations publiques, puis à ce moment-là, c'est l'initiative des communicateurs, communicatrices qui se disent hey, « il faudrait faire ça ». Je dis pas que c'est le cas dans National Geographic, mais dans plein d'autres entreprises qui se veulent se donner une conscience sociale, entre guillemets.
– Gouvernements qui font des excuses nationales
aux autochtones,
par rapport à des événements passés autochtones. –
Mais c'est ça concrètement, matériellement, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est juste que là, pour avoir bonne presse, avoir une bonne image? Est-ce que c'est dire, c'est dans l'air du temps, on va en parler?
C'est ça.
Ou c'est vraiment... Mais moi, ça m'étonne quand même que ça soit sorti ça.
Mais moi aussi.
Avant qu'il y ait un scandale. Parce que habituellement, ça aurait été... On aurait vu ce genre de choses-là comme réponse à un scandale. Genre, le président, rédacteur en chef, dans sa jeunesse, fait des symboles nazis. Mais là, on s'excuse, puis on publie ce genre de choses. Tandis que là, c'est l'inverse qui laisse présager peut-être quelque chose de sincère, mais c'est l'impression que ça donne.
C'est un bon premier pas, mais ce serait intéressant, je pense, parce que là, j'ai pas eu le temps, j'ai fait l'analyse juste pour le conseil de 19 personnes, mais il y a beaucoup plus de membres, il y a d'autres membres, mais ce serait intéressant de voir qui publie le plus,
c'est sûr.
Qui écrit le plus d'articles. Quels sont les autres membres du conseil, quels sont, tu vois, il y a vraiment une grosse étude qui est intéressante à faire là-dessus.
Tu voulais intervenir, Marie?
Oui, vraiment, parce que en fait, on parlait de l'instrumentalisation de la diversité, et dans le cas spécifique du National Geographic, avant qu'on dérive dans d'autres, dans une sphère plus large, je répète, parce que c'est toujours un peu ça qu'on aime faire, en prendre un cas puis l'agrandir, je pense que justement cette instrumentalisation-là, on peut le voir directement par la couverture. La couverture, c'est une petite fille blanche avec une petite fille on pourrait dire qu'elle est blanche et on pourrait dire qu'elle est noire, mais en fait c'est deux jumelles qui sont nées de parents mixtes et que ça donne qu'ils sont des jumelles non identiques et qui ont donné comme une petite fille qui a plus l'air blanche et une petite fille qui a l'air plus à la peau noire.
Ah oui.
Et dans le fond, quand j'ai vu en fait les commentaires sous ces articles-là, puis en l'analysant un peu plus, ce témoignage-là, qui n'était pas l'éditorial, bien entendu, c'est qu'on voyait à quel point quand même ça restait très en surface sur est-ce que vous pensez que vous avez vécu du racisme? En fait, c'était comme utiliser quasiment l'histoire de cette anomalie, je voulais pas dire ça, mais de cette rareté-là génétique qui peut arriver pour un peu pour faire vendre, justement. Donc, pour illustrer encore plus. Alors que finalement, si tu fais vraiment un repenti, à mon avis, de la condition de historique que tu veux évoquer, il y avait aussi d'autres moyens de le faire parce que, mais c'est sûr qu'il y a un aspect sensationnaliste à la chose qui peut être additionné à un bon repenti, mais ça reste que ça peut diminuer un peu le message sincère qui était peut-être là à la base, non.
D'autant plus que si on a des jumelles, il y en a une qui est plus blanche que l'autre, l'autre est plus foncée. Au final, le message, c'est pas on est un peu tous les mêmes dans le fond. Est-ce que c'est un peu qui est sous-entendu, problématique parce que évidemment tout le monde sait que chaque humain a la même valeur.
Mais en plus de ça, c'est que les deux jumelles ont 11 ans et on leur posait des questions sur comment ils vivaient le racisme alors que finalement ils étaient peut-être un peu trop jeunes pour vraiment le sentir dans la façon qu'on
voyait. Ou savoir ce que c'est, mettre des mots sur ce qu'ils vivent aussi.
C'est ça, exactement, mais de la façon qu'ils répondaient, c'était pas qu'ils percevaient pas nécessairement. Donc finalement, tu sais.
En même temps, peut-être, je sais pas.
Pour avoir lu l'article, il s'en apercevait pas vraiment. mais juste pour dire que finalement, si tu t'intéresses vraiment à la condition humaine, c'est quoi vivre avec le concept de racisme en étant racisé, il y aurait eu beaucoup d'autres manières de le faire dans une réflexion peut-être un peu plus approfondie, ce qui est peut-être fait à travers l'ensemble du reste du magazine, mais on s'entend que c'est quand même cette image-là sensationnaliste qui est mise sur la couverture.
Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais savoir, parce que comme ça s'inscrit dans une activité mercantile à but lucratif, ben on s'en sort pas.
Mais c'est ça le truc, c'est que le National Geographic, voilà, il brasse des centaines de millions par année, quoi. Alors, moi, je lance l'appel, là, faites le checking de, qui est publié, qui tout ça, parce que je pense que ça va être à l'image un peu du conseil là que j'ai donné. Zéro femme racisée, un homme racisé, puis blanchité à grande échelle, quoi. Donc c'est ça, faut voir qui a les rênes là-dedans et qui prend les décisions.
Je pense que c'est déjà une bonne piste. Parce que si réellement tu veux changer quelque chose, tu le fais dans les institutions de pouvoir, tu prennes des décisions.
Ouais.
Et réellement, si tu veux marquer un changement, tu fais le changement puis tu l'annonces. Tu dis pas j'annonce et après tu fais. En tout cas, pour moi, il y a quand même une importance dans la procédure. Puis tout à l'heure, on sait pas, peut-être que quelqu'un les menaçait de faire une sortie médiatique puis eux ont devancé ça puis ont décidé.
Ouais, on peut pas le savoir.
Évidemment, c'est la spéculation, mais c'est très rare qu'il y ait des compagnies comme ça vont tout bonnement faire s'ils sont pas menacés.
La première étape pour pas réparer les erreurs du passé là, mais vers les processus de guérison
ou de réconciliation comme le gouvernement aime dire.
C'est ça. La première étape, c'est de reconnaître les torts. Donc même si c'est vraiment minime, puis c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à toutes les souffrances commises ou cautionnées ou peu importe, je pense que c'est quand même positif au final, parce que c'est la première étape vers autre chose. Le fait de le dire publiquement, puis avec le poids médiatique que le National Geographic a, même si c'est pour se donner bonne presse, même si c'est aussi peut-être dans une optique de relations de presse, ben au final, il y a des gens qui vont lire ça, puis qui vont être surpris, qui vont se poser des questions, puis déjà ça, même si l'objectif est peut-être pas 100% noble et pur, le résultat
peut être positif, somme toute.
Les peut-être positif.
Mais il y a deux questions qui peuvent s'évoquer par rapport à ça. C'est un, est-ce que en faisant un effort tel que celui-ci, tu te légitimises dans le reste de tes actions en te disant ah, moi j'agis bien, donc finalement tu te donnes le droit de ne pas nécessairement te remettre
c'est
en question.
Le
danger. Donc ça pourrait être négatif. Mais également, je pense qu'à quelque part, au niveau sociétal, ça peut être une réflexion positive dans le sens que si c'est rendu qu'il faut absolument se positionner de façon plus inclusive pour être accepté dans la société générale, c'est peut-être un peu le reflet d'un certain changement qui se passe dans les mentalités et les mœurs, dans le sens de dire que ce n'est plus acceptable de propager des idées qui sont racistes et inégalitaires. Donc, je trouve que c'est déjà un pas qui peut être positif de voir comparativement peut-être d'autres sociétés qui peuvent faire de faire des commentaires beaucoup plus racistes, par exemple, dans des médias traditionnels et que ça passe comme lettre à la poste.
Si ça ne reste qu'en surface, si les excuses sont là comme ça, tout bonnement, puis le processus n'est pas fait complètement, une crise économique, politique peut ramener ça à zéro. Moi, si on ne va pas plus loin dans le processus dès le début, puis on n'accepte que des excuses. Tu sais, comme en ce moment, ce que Trudeau fait beaucoup avec les Autochtones et l'environnement, la question est reliée en plus. Ben, je trouve que si tu vas pas plus loin, que tu marques pas, tu fais pas des législations dans ce sens, limite, ou si tu ouvres la Constitution, puis tu t'arranges pour leur donner des vrais droits, ben, si tu vas pas jusque-là, après, les conservateurs vont peut-être revenir au pouvoir.
Mais c'est
peut-être
ça.
Peut-être revenir là-dessus. Exact. Alors, les bonnes intentions, c'est bien beau, mais à un moment donné.
T'allais pleurer à la
Constitution. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux pleurer. C'est cute, mais agis pour vrai.
À l'hypocrisie, Trudeau avait promis aux communautés autochtones plus de droits, plus de financement, une meilleure qualité de vie. Puis il y a encore, trois ans plus tard, on arrive à la fin de son mandat, là, dans un an moins d'un an et demi, il y a des élections. Bon, on arrive à la fin de son mandat, puis il y a encore aujourd'hui des communautés autochtones où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'accès extérieur comme des routes qui sont en état, où les maisons sont délabrées, qui vivent dans des situations d'urgence, qui sont évacuées à tous les 6 mois parce que leurs habitations ne sont pas adaptées. Donc, c'était des belles paroles.
Où il y a des femmes qui disparaissent ou qui se font violer et qu'il n'y a pas d'enquête.
D'un autre côté, il y a aussi des commissions. Il y a eu la commission Vérité-Réconciliation qui était quand même, somme toute, acceptée par le gouvernement. Puis il y a en ce moment, je me souviens plus du nom exact, mais il y a une tournée justement sur une enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées ou disparues. Je pense que c'est ça le nom au long. Donc, c'est quand même des initiatives qui veulent dire quelque chose. Mais il ne faut pas se mettre... c'est de la peau aux yeux de penser que tout va se régler parce qu'on fait des vœux pieux. Justement, juste un petit dernier truc avant de te laisser répondre, Marie. dans un cours sur les réalités autochtones au Canada et au Québec, j'ai appris quelque chose d'assez intéressant, justement, je sais qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais sur le fait que les Autochtones considèrent que les processus de guérison, ils n'aiment pas le terme guérison, en fait, parce que guérison, ça veut dire qu'on guérit. Quand on a une blessure puis qu'on guérit, la blessure, après ça, elle n'est plus là.
Ouais.
Alors, ils préfèrent utiliser le terme de mieux-être parce qu'on peut jamais guérir ces blessures-là qui sont si profondes.
Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que finalement, dans le cas de Trudeau, on revient toujours à la question de pouvoir politique et de pression citoyenne. Parce que à travers tout l'ensemble des promesses qu'il a fait, une des promesses les plus importantes qui va pousser de l'avant malgré tant d'opposition de la part des provinces, de la part des municipalités et de certains experts, c'est la légalisation de la marijuana. Et pourquoi il pousse autant cette promesse-là? C'est vraiment juste parce que c'est une promesse qui est rattachée à un public cible qui lui donne la majorité à la Chambre des communes, qui vient rallier le vote des jeunes, qui parfois pourrait aller davantage au NPD, par exemple. Donc, finalement, on se rend compte que ça reste toujours la même chose, c'est que c'est des programmes politiques qui sont basés sur qui va aller voter pour nous, est-ce que ce public-là resterait fidèle. Donc, on finit par faire des programmes à la carte.
Oui, mais concernant la légalisation de la marijuana ou du cannabis, parce qu'en fait, le terme marijuana est profondément ancré dans du racisme aux États-Unis.
Ah, oui.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est formé de deux mots, deux prénoms hispanophones, Marie puis Juana, puis c'est comme dire je vais te donner de, tu sais, comme du taboulé ou genre je sais pas.
C'est pas parce que la plante c'est la Marie-Jeanne, mais ça vient de là, le fait qu'on appelle ça la Marie-Jeanne.
La Marie-Jeanne, c'est de la traduction francophone, finalement.
C'est ça, c'est juste ça. Puis ça a été utilisé en fait pour comme aujourd'hui là, vraiment attaquer les Mexicains, puis les lier, les stigmatiser, puis les lier à la drogue, puis au trafic de drogue. Mais le point où est-ce que je voulais aller, c'est que un effet secondaire peut-être de la légalisation de cette drogue, c'est qu'une grande partie des personnes qui sont arrêtées pour possession, c'est des personnes racisées souvent. Donc ça peut être un effet somme toute assez positif, même si c'est pas le public cible des libéraux, quoique en fait c'est exactement public cible des libéraux.
Mais le but n'était pas nécessairement de dire que cette politique-là n'était pas bonne, parce qu'on s'entend que chaque politique devrait être analysée dans une perspective d'analyse différenciée selon les sexes avec perspective intersectionnelle. On en avait parlé à la dernière émission.
Ouais.
Mais le principe était plus de dire pourquoi certains partis poussent certains programmes, certaines promesses plus que d'autres, mais ça reste encore rattaché à un pouvoir de l'électorat puis à un désir de l'électorat.
Mm-hmm.
Donc, à quelque part, quand on va décider en tant que peuple ou en tant que citoyen, citoyenne plutôt, de mettre ça comme une priorité, ben à ce moment-là, nos politiciens vont l'établir comme priorité. Parce que ça marche pas finalement dans l'autre sens, à quelque part.
Ouais.
D'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu disais à propos des personnes qui étaient arrêtées en possédant du cannabis,
mm-hmm.
Justement, vous irez lire là-dessus, chères auditrices et auditeurs, c'est sur la War on Drugs aux États-Unis,
ah, oui.
Qui était en fait très motivée par des... par le racisme,
ouais.
Parce que mm-hmm. C'était tout dans la même veine que les mouvements d'émancipation des Noirs, mm-hmm. où ils ont commencé à être plus sévères à
c'est
mettre
Reagan,
des lois.
C'est Reagan, ça, qui a fait ça?
Ben,
oui,
c'est Reagan. Reagan l'a vraiment, non, l'a Nixon vraiment accentué, mais c'est Nixon qui a commencé.
C'est Nixon qui a commencé.
Puis c'est parce que dans la majorité des États aux États-Unis, quand t'es incarcéré, après ça, t'as plus le droit de voter. Donc ils savaient,
ouais.
en s'attaquant davantage mm-hmm. avec des peines plus sévères, avec faire un crackdown pour éviter le,
ouais.
pour pas faire le jeu de mots, c'était s'attaquer en fait aux minorités ethniques mm-hmm. aux États-Unis, surtout les minorités noires et hispanophones, pour justement les mettre en prison, puis les empêcher
ça,
de voter.
Ouais.
Puis encore mm-hmm. aujourd'hui, dans plusieurs États dans le Sud, c'est toujours la même rengaine, puis les Noirs, les Hispaniques, vous le savez, font 85% ou 90% des mm-hmm. populations carcérales, alors qu'ils font 25% des populations mm-hmm. dans la société. Donc, c'est vraiment... vraiment, tout est interrelié.
Mais il y a un documentaire, 13e mm-hmm. amendement, 13 Amendment,
ouais.
sur Netflix, ouais. qui parle exactement de ça, qui est d'ailleurs... Ouais.
On le publiera peut-être sur notre page Facebook, si on l'a pas supprimé, notre page Facebook, mm-hmm. à cause de Facebook qui fait des conneries avec
nos données. Du vol de formation.
Sommes-nous surpris? On va aller dans une petite... on va aller écouter une petite chanson. Marie, tu voulais réagir juste avant ou... D'accord, on va revenir à toi, Marie, juste après la chanson. On va écouter Hell What a View de Loud, ooh. Que Camilla s'en va voir tout à l'heure, justement. Ils sont en show à Montréal, au Club Soda, je pense.
Au Métropolis.
Ils voudraient ma mort, ils voudraient ma vie. La gloire et l'envie sont inséparables. Mais c'est pas les rappeurs qui me préoccupent. Aucune compétition, j'ai rien à battre. On m'a dit mon ami, sois pas trop arrogant. En ce moment, aucun homme est imbattable. Je devrais me contenter d'être imbattu. J'ai vu des victoires anticipées. Crois-moi, c'est jamais gagné d'avance. J'ai vu les amis jurer sur la famille. Devenir ennemis, jurer de rien avant. J'ai vu la gloire, y'avait rien à voir. J'connais les groupies, c'est les moins fidèles. J'connais les groupies, c'est les moins fidèles. Si elle me reconnaît, je me méfie d'elle. Dans la vie des certain, you gotta know. Tu peux pas changer les roses en Kenagano. Tu peux pas sauver les kids, t'es pas genre Renault. L'ennemi est parmi nous, parole de parano. Ah, been in this business for I don't know. Des années, ça l'a fait nous des animaux. Ah, eat what I kill, laissez-moi tranquille. J'ai trouvé la paix dans l'exil, mais still. Cancel tous mes rendez-vous, still. Prends plus d'entrevues, vous parlerez entre vous. Still. I finally found a place where I see none of you. And I've been thinking to myself, hell, what a view. What a view. What a view. What a view. Pareil qu'ils parlent ma vie entre eux. Je les ai croisés, ils étaient silencieux. Tous les poussés, je me console avec le fait qu'ils pourront jamais se reproduire entre eux. Une main de phare dans un gun box. On est venu chercher de grands boss. Money dance jusqu'à la providence. Et à la Alabama. J'ai vu des hommes qui voulaient ma peau. Je les ai accueillis comme mes apôtres. Ils m'ont régné trois fois le coq à chanter. Ils sont revenus comme de rien après la pause.
De jour sur la job à 3h15. Already know what my girl thinks. All I'm ever doing is work. But baby, whatever I'm doing is working. Dans la vie, there's something you gotta know. Tu peux pas changer les hoes en Kenagano. Tu peux pas sauver les kids, t'es pas Jean Reno. L'ennemi est parmi nous, parole de parano. Ah, been in this business for I don't know. Des années, ça le fait nous des animaux. Ah, eat what I kill, laissez-moi tranquille. J'ai trouvé la paix dans l'exil, mais still. Cancel tous mes rendez-vous. Still, prends plus d'entrevues, vous parlerez entre vous. Still, I finally found a place where I see none of you. And I've been thinking to myself, hell, what a view. 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 What a view.
C'était une très belle chanson de Loud, Hell, What a View. Donc, vous écoutez toujours la Photomédia. On est toujours là avec vous en ce vendredi soir, public nombreux. Donc, nous allons maintenant parler de portraits médiatiques, les médias ethniques, entre gros guillemets, les médias qui sont en fait des médias peut-être culturels, des médias dont certaines minorités forme, crée, utilise, bref, Marie, peux-tu démêler tout ça?
Oui, parce que là, finalement, on a justement, pendant qu'on était hors d'onde, on parlait de tout l'ensemble des définitions qu'il peut avoir quand on veut essayer de classer, entre guillemets, dans un beau petit, belle petite filière, les différentes personnes qui composent la diversité montréalaise. Juste pour faire un suivi et même un lien avec la chronique d'avant, quand on parlait justement des différentes réalités que peuvent toucher différentes politiques gouvernementales, on parle beaucoup justement du rôle que les médias peuvent avoir dans le fait d'analyser ces politiques-là. Et comme on parlait un peu tout à l'heure, c'est que la difficulté à voir la discrimination quand on n'en est pas victime, c'est ça qui fait que finalement, on devrait avoir peut-être une plus grande représentativité dans les médias parce qu'on a un regard qui nous permet de voir la discrimination que peuvent faire des acteurs de pouvoir comme le font entre autres les gouvernements. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais un peu parler de médias ethniques, entre gros guillemets, en effet, parce que c'est une situation qui me touche un peu en ce moment à essayer de rallier un peu tout ça dans le cadre de mon travail avec un mandat justement sur l'inclusion sociale à travers les médias. Et je me suis intéressée un peu à voir comment, qu'est-ce que ça constituait. Donc, mes données sont pas nécessairement très récentes, donc vous m'en excuserez parce que c'est de plus en plus difficile de compiler des données, particulièrement sur les médias communautaires. Mais en 2006, on comptait 250 journaux ethniques à travers le Canada, si je crois bien, dans 40 cultures différentes. Donc, on parle d'hebdomadaires, de mensuels. On parle aussi de programmes radio. Donc, on parle beaucoup aussi juste d'une émission radio. Vous pouvez être considéré comme un média ethnique, par exemple, d'avoir une émission directement en espagnol. On parle souvent de quand on parle de médias ethniques, on parle beaucoup de médias qui sont directement dans la langue d'origine de certaines communautés. Donc même si on même si ça serait par exemple un magazine sur la culture latino-américaine, qui se ferait en français, c'est plus ou moins considéré comme un média ethnique. On parle beaucoup plus quand c'est dans la langue d'origine. Donc on en a à Montréal, autant en arabe, en italien, en grec, en mandarin, en espagnol, en roumain. En roumain, justement, je pensais que tu allais m'en parler parce que je sais que tu as une relation particulièrement d'attachement avec les médias roumains. Là.
Oui, c'est ça. Je les lis, les consulte à tous les siècles. Mais
siècles?
Mais oui, c'est ça. Ayant des origines roumaines, c'est sûr que je me suis plus informé. Je sais pas, par contre, c'est quoi l'état des médias imprimés ethniques avec la crise de l'imprimé. D'après moi, c'est
j'oserais
peut-être que
dire
ça fonctionne.
Mauvais.
Oui, oui, mais en même temps, ça pourrait être surprenant. Je sais vraiment pas, mais il y a certains médias qui, justement, vu que c'est des communautés particulières qui les supportent mm-hmm. ben ça peut faire en sorte que c'est moins touché par les aléas des cours, de combien coûte le papier, etc.
Ils ont
etc.
une situation économique très particulière, justement, les médias ethniques, comme tu dis. On pourra en parler un peu plus davantage, mais vu que tu as ouvert une certaine porte, avant de se lancer un peu dans la situation économique, vu qu'on a des personnes autour de la table qui ont déjà qui font partie de minorités ethnoculturelles qui ont consulté ces médias-là ethniques, je voulais vous adresser une question, moi qui ne fais pas partie d'une communauté minoritaire, savoir qu'est-ce que ça représentait pour vous, le fait d'avoir ces médias-là qui sont adressés directement à votre communauté minoritaire et souvent dans votre langue d'origine.
Ben, si je peux y aller, là, pour moi, les médias en espagnol que ma famille consomme se résument beaucoup à Radio Centre-Ville. Puis, en tant que ancienne adolescente, il n'y a pas si longtemps, je peux vous dire que la relation que j'avais avec Radio Centre-Ville, c'est une relation de haine. Parce que le samedi, c'était Los Sábados Rumberos. Puis ça, c'était le gros beat. Le gros beat à la radio que j'étais obligée d'endurer. Moi, ça m'énervait parce que j'ai jamais aimé le reggaeton. Fait que c'est ça. Puis c'était du gros beat. C'était pas genre une émission très... très
Mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'émissions parlées quand même en espagnol. Aussi à travers la radio, donc c'est dommage que tu aies été pris avec l'émission de reggaeton que tu n'affectionnais point, mais il y a quand même d'autres choses.
Moi, je veux le nom de cette émission, ça m'intéresse.
Los Sábados Rumberos.
Merci.
Et toi, Tessie, est-ce que...
C'est sûr que nous, je pense que c'est connu à travers tous les, toute la communauté haïtienne, autant les jeunes, ceux qui sont ici, ou les immigrants qui viennent d'arriver, qui est CEPAM, la radio haïtienne. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été marquant, je pense, pour mon identité moi-même, parce que mes parents, le week-end, c'était toujours ça. Donc, malgré que la semaine, ma mère, elle mettait toujours Rouge FM et tout ce genre de baratin, mais tu sais, le week-end, c'était mon père qui avait la radio et c'est lui qui mettait ses pommes. Puis, sérieusement, je pense que c'est qu'est-ce qui m'a permis d'apprendre sur ma culture, parce que il y a beaucoup de diffusion, non seulement en créole, la vision de la religion haïtienne versus, par exemple, puis c'est drôle parce que j'en parlais aujourd'hui, versus l'idée de la religion au Québec est totalement différente. Puis c'est drôle parce que à la radio, malgré c'est quelque chose qui est privé, c'est quelque chose qui est public, tu sais, on commence toujours l'émission par soit par une prière ou ça commence toujours, puis tu sais, dans le sens que c'est inclus naturellement dans les émissions, comme on parle de Dieu, on parle, tu sais, c'est pas quelque chose que tu vois dans les médias québécois ou d'ici, tu sais, fait que moi, c'est qu'est-ce que je trouvais vraiment intéressant, tu sais.
Moi, j'ai été, si je peux rajouter, là, j'avais pas complété, beaucoup plus, qu'est-ce que j'ai vu le plus comme médias ethniques, en fait, c'est pas les médias latino-américains, c'est des médias italiens, parce que dans mon coin, il y a vraiment beaucoup d'Italiens, puis je voyais des journaux imprimés en italien, puis juste voir un journal, voir une trace imprimée qu'une culture laisse, c'est quand même le fun, ça prouve qu'il y a une force, il y a une présence, puis c'est quelque chose qui est quand même assez important pour qu'on l'imprime.
Les médias roumains sont vraiment peu rassembleurs, je voulais juste le dire, parce que c'est vraiment, ça se démarque beaucoup des autres médias.
Donc, merci d'avoir donné vos témoignages parce que je pense que ça l'aide un peu à comprendre l'impact de la représentativité. Mais vu justement qu'on a peu de temps qui nous reste à l'émission, je voulais juste faire un petit bilan sur qu'est-ce qui constitue un peu les difficultés. C'est certain qu'il y a l'avantage que ça soit financé par la communauté, souvent, ces médias-là.
Ils sont très mobilisés parfois.
Ouais, mais en fait, il y a aussi des désavantages parce que les médias ethniques sont pas considérés au même titre que les médias communautaires, ce qui fait qu'ils peuvent pas bénéficier, entre autres, du placement de publicité de la part du gouvernement, ce qui leur coûte beaucoup, beaucoup de subventions. Même si en tant que tel, on sait qu'ils ont un certain rôle à jouer. Donc, il y a déjà des questions par rapport à ça qu'on peut se demander. Et on peut parler, entre autres, du fait que Radio Centre-Ville, c'est une des radios qui a le plus d'émissions dans d'autres langues. Mais, justement, ça portait des problèmes par rapport aux subventions qu'ils recevaient de la part du CRTC, avec les autorisations de la part du CRTC et les subventions qu'ils pouvaient recevoir de la part du gouvernement. Ce qui fait qu'ils ont été dans des graves problèmes financiers. En fait, on a appris aujourd'hui qu'ils allaient pas perdre leur antenne parce qu'en fait, ils donnaient tellement d'argent à des créanciers que, les usuriers avaient menacé d'aller chercher l'antenne. Et ça s'inscrit dans une difficulté, en fait, en général, de la part des radios communautaires quand on parle de CIBL, entre autres.
Oui, mais au niveau de Radio Centre-Ville, il y avait aussi d'autres problèmes au niveau de la gestion, là. Mais,
oui, mais ça, c'est bien entendu, là. Mais je veux dire, ça reste que ça joue un rôle pilier dans la part des communautés culturelles.
On s'entend. Bon, mais c'est tout le temps dont on disposait. On va scraper la dernière chanson, comme c'est souvent le cas. mais c'est pas grave, on préfère vous parler que d'écouter des très belles chansons, très bonnes, mais c'est pas.
Je pense qu'en plus, c'est encore loud.
Donc, vous irez les voir. Ils sont au Club Soda ce soir. Sortez de chez vous. Arrêtez de nous écouter. Sortez le vendredi soir. Donc, 20h59 et 49 secondes. Émilien Roscanou, Tessie Jean-Paul, Étienne Tardy-Paradis, Marie Chabot-Jensen, Myriam Bernet, ainsi que Camilla Rodriguez. On se voit la semaine prochaine.
Bye!
Bye!